Bonjour, vous écoutez RCN 90.7, c'est Marc Page, l'émission d'Yves Sartier, que vous pouvez retrouver aussi sur le site internet de Radio Caraïbes Nancy. Vous pouvez l'écouter actuellement, tout simplement, ou alors retrouver l'émission enregistrée en podcast à partir de demain ou après-demain sur ce même site. Alors, les auditeurs habitués de Marc Page doivent être assez déçus de ne pas retrouver Yves. Au micro, c'est Ariane Perdigal, l'une de ses chroniqueuses. Yves, malheureusement, doit continuer à se soigner, donc il reviendra plus tard. Et pour l'instant, on va essayer d'entretenir son émission de manière à ce qu'il la retrouve intacte. Et puis on va l'encourager, lui dire toutes nos pensées de soutien et l'embrasser très fort, voilà. Et en plus, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un invité que je sais qu'Yves aurait beaucoup, beaucoup aimé interviewer. Il s'agit de Gérald Tenenbaum, un habitué de Marc Page. Bonjour Gérald.
Bonjour Ariane.
Alors Gérald Tenenbaum qui vient nous voir pour nous parler de son dernier roman qui est sorti au mois d'août, qui s'appelle « Peau vive », un très joli titre. Et est publié à La Grande Ourse. Alors un roman que vous pouvez évidemment acheter dans n'importe quelle librairie, mais pour les chanceux qui habitent la Lorraine et qui pourront venir au livre sur la place. Alors c'est le livre sur la place, c'est ce très très grand salon du livre du nord-est de la France qui commence demain et qui se déroulera jusqu'à dimanche. Vous aurez la très grande chance de pouvoir rencontrer Gérald et de lui acheter son livre ou de simplement de discuter avec lui. Gérald, vous serez bien présent.
Oui, je serai là sur le stand de la librairie Didier.
Et vous y serez tous les jours ?
Tous les jours, à partir de demain en début d'après-midi jusqu'à dimanche soir.
Voilà, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Une fois que vous aurez entendu, écouté cette émission, précipitez-vous pour rencontrer Gérald Tenenbaum. Alors, voulez-vous nous résumer votre roman ? J'aime autant que ce soit vous qui le fassiez parce qu'il est très dense, très riche.
Écoutez, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est à la fin des années 80. Cette jeune femme a un problème, elle a une phobie du toucher qui est issue d'une histoire familiale complexe, d'une question d'empathie avec la douleur en particulier de son père. Et cette phobie est une calamité, évidemment, dans sa vie, puisqu'elle l'empêche de vivre une vie normale. Donc, elle compense tout ce qu'elle ne peut pas vivre dans la réalité par une vie dans l'imaginaire. Elle va beaucoup au cinéma, elle écoute des chansons, la musique arrive à la toucher de manière virtuelle. Et ce soir d'octobre 1988, elle va voir son père, et puis elle revient, et puis elle décide de se faire une toile au Quartier Latin, et elle va au cinéma Saint-Michel où on joue en particulier La dernière tentation du Christ, le film de Martin Scorsese qui à l'époque fait scandale et un certain nombre de chrétiens fondamentalistes ont protesté et ont proféré des menaces contre les cinémas qui jouent ce film. Elle va voir les affiches, elle est tentée, mais finalement les horaires ne concordent pas, et elle décide d'aller voir un autre film dans le même cinéma, qui est Stormy Monday de Mike Figgis, qui est un petit polar. Le temps passe, et puis à un moment donné, il est presque minuit, c'est à peu près la même heure sur l'écran et dans la salle. Et une bombe incendiaire éclate. Et Ève répugne à se ruer vers la sortie parce qu'elle ne veut pas frôler les autres spectateurs. Et elle tombe inanimée sur le sol. Elle rentre dans le coma. Voilà, et donc ça c'est le début du livre. À partir de là, ce coma autour de ce... Bon, elle va être sauvée in extremis par l'intervention d'un mystérieux passant, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Elle va, elle va à l'hôpital de la Pitié, autour de son lit, autour d'elle, bon, sa famille se regroupe, la parole se libère, on arrive à la toucher de nouveau. Et puis, voilà, il y aura un réveil et il y aura des décisions qui vont accompagner ce réveil, en particulier celle de se déplacer, d'aller jusqu'au mur de Berlin, je crois que là aussi on en reparlera, qui est un petit peu le symbole de toutes les séparations. Et comme elle est séparée du monde par cette peau vive, cette peau qui la brûle, et donc elle va aller là pour tenter de se libérer parce qu'elle décide que elle va vivre sa vie pleinement ou bien ne pas la vivre du tout. Donc c'est vraiment une question essentielle, c'est une question vitale, c'est le cas de le dire. Et donc voilà, c'est un peu l'histoire de cette libération et de ce parcours dans l'imaginaire.
Merci. Alors, avant de parler plus en détail de l'intrigue et des différents thèmes qui sont développés, j'aimerais parler de votre style. Parce que moi, je fais partie des personnes un peu vieux jeu qui trouvent qu'un véritable écrivain se doit d'avoir un style très personnel qu'on reconnaît dès les premières lignes. D'ailleurs, chez vous, vous pouvez faire l'expérience si vous prenez un classique à l'aveuglette dans votre bibliothèque, sans regarder la couverture, vous l'ouvrez au hasard, vous lisez quelques lignes, normalement vous reconnaissez l'auteur.
Oui, c'est vrai.
Et vous faites partie des rares écrivains contemporains qui ont cette particularité. Alors, ce style, alors je me permets de le définir, et puis vous me direz si vous êtes d'accord, si vous voulez ajouter des choses. Pour la première chose qui frappe, c'est sa musicalité, tant par la sonorité des syllabes que par le rythme des phrases, qui s'accorde parfaitement à l'émotion ou à la situation qui est décrite. Il y a aussi un rapport aux mots qui est très très particulier. Vous jouez énormément avec les mots, soit pour donner un sens poétique, soit parfois pour apporter une touche d'humour, ou alors vous arrivez aussi à utiliser des expressions qui ont des significations distinctes mais complémentaires. Donc c'est un style, j'ai reconnu dès les premières lignes. Donc je vous propose de lire le premier paragraphe de Peau vive.
Volontiers.
Pour donner une première idée aux auditeurs de ce qui les attend.
Voilà, donc ce sont les premières lignes. Elle ne saurait prévoir quand il vient, mais elle sait qu'il revient. C'est une présence, de loin en loin, qui l'accompagne comme on dit d'un ange gardien. Un ange étrange, plus lourd que l'air, mais qui saurait voguer sur le temps. La quarantaine, barbe courte ou joues ombrées, boucles chinées, reflets argentés, profil d'aigle ou d'albatros étonné, il revient, toujours le même à part le temps, précisément, qui érode tel un goutte à goutte. Si l'on peut s'approcher et qu'on y prête attention, on en distingue les stigmates, juste là, au creux des paupières. Ève rouvre les yeux. 22 octobre 1988. L'après-midi a passé sans rien dire.
Alors voilà, c'est de la poésie en prose. Enfin, c'est comme ça que je perçois les choses. En tout cas, les auditeurs auront perçu la musicalité
Oui, pour moi, le style, enfin, c'est, enfin, je crois qu'il y a art à partir du moment où on met du fond dans la forme. C'est-à-dire que le style, il est là pour apporter quelque chose de plus à simplement aux mots qui sont écrits tels qu'ils sont écrits. C'est vrai que j'aime écrire dans les silences ou j'aime écrire entre les lignes. C'est-à-dire que à travers ce qui est écrit, quand une phrase se développe, on attend un mot, c'est un autre mot qui va apparaître à la place, mais le mot qu'on attend, il est là quand même, il est là comme un palimpseste, il est là comme il est là en filigrane. Et donc du coup, on a plusieurs mots pour le prix d'un seul, si je peux m'exprimer ainsi, et c'est ce que j'essaye d'exprimer. Aujourd'hui, je veux dire, on est dans un monde où on est assailli d'images dans tous les sens, et donc la littérature se doit d'explorer un autre champ. Je veux dire, on n'est plus dans une littérature qui est là pour décrire, puisque je veux dire, les images, on en a plein les yeux, mais justement, l'écrivain peut faire appel à ces images dont il sait que le lecteur les a en lui. Et donc la littérature peut chercher d'autres voies, elle peut exprimer ces choses indéfinissables de l'être, ces pensées qu'on n'ose parfois même pas formuler pour soi-même. Donc c'est cette voie que j'explore et justement cette manière d'écrire me permet, je pense, de marquer les silences, si l'on peut dire.
Oui, tout à fait. Et c'est pour cela que c'est un livre dont l'intrigue a beau être passionnante, qu'on déguste, on ne le dévore pas, parce qu'il faut vraiment savoir apprécier chaque phrase, chaque paragraphe à sa juste valeur. Et c'est un livre qu'on doit relire, à mon avis, pour justement l'apprécier pleinement. Alors, pour donner aux auditeurs une idée de la diversité de la manière dont votre style s'adapte aux situations décrites ou aux émotions que vous voulez transmettre, je propose que vous lisiez un autre extrait tout au cours de l'émission. Hein, je vous demanderai ça. Là, il s'agit en fait on part dans le passé et on décrit un traumatisme qui arrive à votre héroïne, Ève, et qui est à l'origine de ses problèmes de peau, d'après ce que j'ai compris.
Tout à fait.
Donc, Gérald...
C'est le premier moment auquel on revient. Les images bouclent, enroulées autour des années. Un soir de septembre, plus de 20 ans de cela. L'heure du dîner approche. Tablier noué dans le dos... Ève et Irène préparent la sauce carbonara sur la toile cirée de la cuisine. Calé sur le buffet, le poste transistor. All you need is love, love, love is all you need. Dans la chambre des parents, un seul cri, rauque, mâle, suivi d'un silence paralysé. Regards croisés, sortie précipitée, le couloir éteint. Simone, seule, en manteau d'astrakhan, un grand sac à la main tenu sous le manchon. À travers ses lunettes parmes en amande, elle fixe ses filles interdites. On sent dans son regard comme un étonnement, presque une lueur de peur. Le rouge grenat a débordé au coin des lèvres, les narines sont dilatées. Elle passe la main dans ses cheveux, une mèche lui retombe sur les yeux. Ensuite, sans lâcher le sac, elle se reprend. « Mes filles, j'aurais voulu vous prévenir plus tôt. Tant pis. » C'est maintenant, c'est la vie. Votre papa et moi, votre papa, eh bien, à force d'être là, tous les deux, tous ensemble, si près, nous nous sommes mis les nerfs à fleur de peau. Elle fait un pas, puis deux, vers la porte, s'arrête, se retourne. Il a mal, je sais bien, mais nous serrer les uns contre les autres ne ramènera pas ses absents. Moi, en tout cas, je ne peux plus tenir ces fantômes par la main. » Irène s'approche d'Ève. Simone poursuit dans le même souffle. « Ces blessures-là ne se referment pas. Du sang qui part en fumée. Je ne sais pas faire. Vous, vous êtes sa chair, c'est différent. Vous saurez peut-être, oui, vous saurez, forcément. » Elle jette un regard presque doux vers la chambre au bout du couloir, puis tord sa bouche comme pour rattraper la glaçure carminée qui s'échappe dans le pli d'amertume. « Je pars. Impossible autrement, impossible, c'est ça. Tout de suite, maintenant. La Belgique. Pas si loin en vérité. Reprendre des études. Les femmes aujourd'hui, vous êtes grandes, hein, un jour vous comprendrez. » Un pas encore, le dernier, et dans un soupir. « Allez-y. Il a besoin, vous savez bien. C'est à vous, à présent. À vous. » Irène saisit la main d'Ève. Décharge électrique, la première. Irène s'écarte. La porte se referme. Irène éclate en sanglots. Ève frissonne de tout son dos. Dans la chambre à coucher, Jean est allongé dans le noir, un gant de toilette humide sur le front. La photo des grands-parents, debout, posant bien droit devant la vitrine étriquée de leur atelier de retouche et posée sur l'oreiller vide.
Merci. Alors là, les auditeurs auront remarqué donc un style très différent et parfois j'ai envie de dire des expressions qu'on pourrait retrouver dans des scénarios de cinéma.
Tout à fait. Oui.
Voilà. D'ailleurs, vous en avez écrit, je crois. Hein.
Oui.
et donc ça permet évidemment de donner un rythme très particulier à la scène et une intensité très poignante. Maintenant, alors, je vous demanderai hein, de relire d'autres extraits, comme ça les auditeurs auront d'autres exemples de votre style. Mais alors, pour en venir à l'intrigue et aux différents thèmes du livre, alors, vous avez vous-même dit qu'on parlerait de ce personnage récurrent que Ève croise très souvent depuis qu'elle est petite et qui va l'aider, qui va la guider. Une question qui se pose quand on lit ce roman... Bon alors, le personnage, je dois le préciser, on l'identifie très rapidement comme étant le juif errant.
Oui.
D'ailleurs, en exergue de votre livre, vous citez un extrait, une phrase du passant de Prague d'Apollinaire. Le passant de Prague est une nouvelle dans laquelle, enfin, dont l'un des deux personnages principaux est le juif errant. Cette phrase, c'est « Nous allions sans parler ». Donc, le personnage du juif errant est partout présent. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est là uniquement dans l'imagination d'Ève ou existe-t-il vraiment? Parce que à la fin du livre, ils dialoguent ensemble. Je ne veux pas révéler la façon dont ça se termine, mais apparemment, il intervient vraiment physiquement. C'est grâce à lui donc que Ève pourra être sauvée, sortie du cinéma, puisque c'est ce personnage qui préviendra un pompier et lui dira qu'il reste une femme dans la salle de cinéma, qu'il faut aller la chercher. Donc, ce personnage est concret, il peut s'adresser aux êtres vivants. Et en même temps, on nous dit que c'est un personnage qui accompagne Ève depuis son enfance, qui fait partie de sa mythologie personnelle.
Tout à fait, oui. Oui, le livre est un peu construit comme une sorte de dialogue entre les imaginaires juifs et chrétiens. Le juif errant, bon, qui est donc un personnage juif, fait partie du merveilleux chrétien, puisque ce mythe a été créé au Moyen-Âge dans la chrétienté européenne. Et par ailleurs, dans l'imaginaire judaïque, un grand pouvoir hallucinatoire des morts qui ne vivent plus que dans notre imaginaire, particulièrement depuis le génocide, puisque les familles juives portent non seulement leur mort, mais aussi le manque de tous ceux qui ne sont pas nés. Donc, ce personnage du juif errant, donc qui date du Moyen Âge et qui est une sorte de fantôme en mouvement condamné à arpenter la terre. Moi, j'ai eu envie de le réinterpréter. Donc, au départ, ce personnage est un personnage négatif. C'est un mythe négatif puisque il a commis un crime. Il s'est moqué du Christ sur le chemin de croix et le Christ l'a condamné. Il lui a dit "Eh bien, moi, mon chemin va être court, mais le tien, il va se perpétuer et tu vas marcher jusqu'à la fin des siècles." Et moi j'ai eu envie de justement, en lisant en particulier la nouvelle d'Apollinaire, j'ai eu envie de réinterpréter le mythe et de me dire que cet homme qui parcourt le monde, eh bien, il ne peut être qu'un lien entre les hommes puisque il va d'un pays à l'autre, et il est donc forcément, je veux dire, quelqu'un qui se déplace comme ça peut être un lien. Alors il a un double rôle, maintenir le lien avec les morts, combler le vide, mais aussi aider les générations de survivants à se retrouver eux-mêmes et à se libérer. Donc oui, ce personnage fait partie de l'imaginaire collectif. Il fait partie de la psyché individuelle d'Ève. Savoir s'il existe vraiment ou non, ça c'est à chacun de décider. Il y a ceux qui croient aux fantômes et ceux qui n'y croient pas. Moi, je fais partie de la première catégorie, mais chaque lecteur peut choisir pour lui-même.
Oui, alors j'avais été frappée par un passage du livre où je crois que c'est elle, le personnage d'Ève, qui dit que elle ne croit pas, elle n'a pas de pressentiment, qu'il soit positif ou négatif, elle ne sent pas de regard sur sa nuque, etc. Ça m'avait fait penser, alors c'était peut-être pas votre intention, mais ça m'avait fait penser à Dostoïevski et notamment à l'idiot. L'idiot avec le prince Mishkin qui lui au contraire a toutes ses particularités et je voyais une relation entre eux parce que le juif errant en principe est un personnage très néfaste dans la mythologie. En fait c'est le bouc émissaire de toutes les catastrophes qui
tout
peuvent arriver. Or là il a un rôle totalement positif,
oui,
voilà.
Oui.
Et donc de même que le prince Mishkin essaye d'aider les autres. Donc je voyais un lien aussi entre les religions et je me disais que vous arriviez à rassembler dans un personnage finalement différents mythes. Dans la mesure où on considère que Dostoïevski a créé un mythe.
Oui, tout à fait. C'est vrai que chaque mythe a ses faces. Je veux dire, il y a des faces. Et un personnage... les mythes sont souvent dédoublés. Dans la mythologie juive, il y a le personnage du Dibouk, qui est bien connu et qui est maléfique. C'est-à-dire, c'est une possession d'un être vivant par une âme qui veut réaliser ce qu'elle n'a pas pu réaliser, mais que c'est une possession agressive. Et il y a quelque chose de beaucoup moins connu qui est Libur, qui est une imprégnation positive et qui est le pendant, le pendant faste du Dibouk qui lui est néfaste. Et ça m'a donné l'idée justement de revisiter ce mythe du juif errant et de lui donner un rôle positif, alors que effectivement, bon, il a au départ, il a été créé comme pour effectivement, comme vous l'avez dit, comme un bouc émissaire, disons, qui est condamné à expier éternellement. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que le Christ, bon, est amour, et là, pour le juif errant, donc, mais en même temps, bon, enfin, c'est le mythe date du Moyen Âge, il date pas des origines de la chrétienté, mais lui, il est condamné de manière définitive et irrémédiable à arpenter le monde sans jamais pouvoir s'arrêter. Donc, c'est vrai que ce personnage m'a intéressé parce que dans l'imaginaire, l'imaginaire, c'est comme la langue d'Ésope, ça peut être la meilleure et la pire des choses. Et Ève est emprisonnée par son imaginaire. C'est son imaginaire qui a créé ce problème, cette phobie qui l'empêche de vivre. Et moi, j'aime bien décrire des personnages qui prennent en main leur destin, qui décident de prendre le volant de leur vie et de la conduire. Et donc, c'est finalement par son imaginaire qu'elle va se libérer.
Très bien. Alors, il y a une chanson qui est régulièrement citée dans le livre. C'est une chanson qu'aime beaucoup Ève et que nous allons écouter, un petit intermède musical. Une très grande chanteuse, une personnalité remarquable, une voix magnifique. Nous écoutons Barbara chanter « L'aigle noir ».
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi dans un bruissement comme tombé du ciel. L'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. Son fond brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est un ange de l'air inconnu, surgissant du passé. Pays d'autrefois, comme avant dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles. Je m'étais endormie. Au matin, il ne me restait rien. L'oiseau m'avait laissé seul avec mon chagrin. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, ou était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie.
Voilà, vous écoutez Marque Page sur RCN 90.7 ou alors sur votre ordinateur, sur le site de Radio Caraïbes Nancy. Et nous recevons Gérald Tenenbaum pour son dernier roman, Peau Vive, qu'il présentera notamment Place de la Carrière à partir de demain au cours du Salon du Livre, le livre sur la place. Donc Eve, vous l'avez dit, est très très sensible au cinéma, à la musique. Ça lui permet, enfin, ce sont des échappatoires qui lui permettent de vivre à travers ses arts. Et vous avez vous-même un style, on en a parlé, extrêmement musical. Donc comment tout cela peut-il se conjuguer? Eh bien, je vais vous demander de lire un autre extrait. Vous nous avez expliqué que Eve allait au cinéma, se faire une toile, et voilà, vous allez nous raconter la façon dont elle perçoit la musique du film.
Elle est au cinéma, et un certain nombre des choses que je vais lire se réfèrent à ce qu'elle voit sur l'écran. Elle se cale dans son fauteuil à l'abri du monde. Les arrogantes lamentations de la trompette se conjuguent avec les éclats épars de la basse, tandis que la batterie prélude à l'errance communément partagée. Certaines mélodies vous font sentir à la fois le même et le singulier. Elles vous donnent le courage insensé d'enjamber des gouffres autrement amers et terrifiants. Ève, dont la peau se refuse au contact, accueille de plein fouet ce toucher-là. Une heure passe et 20 minutes. Le dénouement monte aux accents effrénés du Krakow Jazz Ensemble, piano et saxo, mettant le feu au Key Club, alors qu'en contrepoint, l'horloge de la voiture piégée égrène les secondes. Traversée par cette pensée incongrue qu'il est pratiquement la même heure sur l'écran et dans la salle, Eve se redresse sur son siège.
Voilà, et là, la bombe va exploser, entraînant un très grand tournant dans la vie de votre personnage. Alors, j'ai l'impression que dans ce livre, vous abordez tous les thèmes qui vous tiennent à cœur et dont vous avez parlé séparément dans les romans précédents. Il y a évidemment la Shoah et son impact sur non seulement sur les personnes qui l'ont vécu, mais sur les générations suivantes, les traces qu'elle laisse, les traumatismes, etc. Là, bon, vous en parliez notamment dans L'Ordre des Jours, votre roman qui a reçu le prix Erckmann Chatrian. Vous parlez aussi beaucoup de la mémoire. Du souvenir, des mécanismes du souvenir. Alors là, je vous recommande un livre dont on a peut-être moins parlé, mais qui est remarquable, Souffle couplé. L'intrigue prend la forme d'une intrigue policière à suspense, mais le thème est bien la mémoire et c'est absolument passionnant. Et puis évidemment, les relations humaines, l'altérité, comment faire face à cette altérité, comment arriver à se comprendre, à se rejoindre. Ce thème, vous l'avez développé dans le précédent roman, L'affinité des traces. Donc j'ai l'impression que là, vous avez réussi à... Enfin, réussi. C'est malheureux de dire ça, de me présenter ça comme ça, parce que vous, de toute façon, vous pouviez le faire, mais que vous avez rassemblé tous ces thèmes qui vous tenaient à cœur.
Oui, c'est vrai, on peut le dire. Ces thèmes sont tous présents et vous avez raison, je pense qu'ils sont conjugués dans ce livre-là. Ce qui m'intéresse souvent, c'est le traumatisme, parce que bon, nous vivons tous des traumatismes on essaye de réagir par rapport à ça, de s'en déprendre, de se sauver soi-même. Et au niveau de la communication, moi j'ai remarqué que le traumatisme se transmet de génération en génération, mais qui se transmet en se transformant. Et dans les familles des enfants de déportés, les gens qui ont vécu, les familles qui ont subi le génocide, souvent cette transmission s'opère dans et par le silence. Et s'il parle, c'est de ce silence que parle mon texte. Il y a cette espèce de secret qui se transmet comme ça, sous forme d'ellipse, entre d'une génération à l'autre. Cette parole ce non-dit n'arrive à être n'arrive à la voix, n'arrive à parler, n'arrive que lorsque Ève est muette parce qu'elle est dans le coma et qu'elle ne réagit pas, et c'est là que la parole se libère. Donc c'est vrai que je dirais que dans l'imaginaire des peuples qui ont subi des traumatismes, des génocides, qui ont et je pense aussi bien au peuple juif qu'à d'autres peuples, peuple touareg ou au peuple rwandais ou à d'autres, il y a la mémoire est vénérée, mais en même temps, c'est une mémoire mortifère, et donc il faut arriver à faire de cette mémoire quelque chose qui va porter la vie et non la mort. Et donc c'est tout le parcours de mon personnage d'arriver à transformer cette mémoire mortifère en une mémoire de vie.
Et alors, il y a des personnages qui interviennent. Alors, une chose m'a surprise, des personnages qui interviennent pour aider Ève très ponctuellement et qui disparaissent ensuite. Par exemple, ce pompier qui va la sauver dans le cinéma, ou alors plus tard, lorsqu'elle se retrouvera à Berlin, un personnage qu'elle rencontre dans une soirée et qui se révèle être un indicateur. finalement, que représentent ces personnages qui n'apparaissent que ponctuellement, alors qu'on s'attend à les retrouver par la
suite.
Oui,
c'est vrai. Alors, le personnage de Pierre, le pompier volontaire, il est, je dirais que, bon, c'est une forme de passeur. Il fait partie de l'équipe des sauveteurs, qui ont tous les noms des apôtres, et qui recueillent Ève, qui est victime collatérale d'un christianisme dévoyé, hein, puisque... L'attentat est perpétré par des chrétiens fondamentalistes, qui vont un petit peu loin, dans l'amour du Christ. Alors, ces apôtres, qui sont en fait les sauveteurs qui véhiculent, enfin, qui emmènent Ève à l'hôpital de la Pitié, donc c'est pas par hasard non plus, sont un peu le symbole d'un lien entre les deux religions, d'une rédemption. Et Pierre, il est pompier, mais il est aussi pompier volontaire, et on peut y voir l'accueil de la République, de la solidarité. Alors, il ne disparaît pas totalement, puisque c'est lui qui accompagne Ève tout à la fin du livre, pour un événement très important de sa vie que je ne révélerai pas. Il veille sur elle, il veille de loin. Il est comme un écho, je l'ai construit, comme un écho républicain et chrétien du juif errant. Ou une réplique, si on veut parler en termes sismiques. Et s'il s'efface à un moment du livre, c'est parce qu'il rencontre André et il se rend compte que l'amour qui existe entre Ève et André est un amour indestructible, donc il va respecter cet amour et il va à ce moment-là s'effacer tout en continuant à la protéger de loin. Quant au personnage de l'indicateur que Ève rencontre, sans même d'ailleurs vraiment le rencontrer, il est un petit peu le symbole des contradictions du peuple allemand au moment de la chute du mur.
Merci. Alors je vais à nouveau vous demander de lire un passage de votre roman. Justement, au sujet de la difficulté de la transmission d'un traumatisme. Enfin, la transmission d'un traumatisme, on ne veut pas transmettre le traumatisme, mais on voudrait l'expliquer. Or, quand le traumatisme est trop grand, c'est impossible. Vous l'exprimez très bien dans un passage... excusez-moi, il faut que je me retrouve dans mon livre. Voilà, et Ève, c'est page 103, Ève repense à un film d'Alessandrini qui traitait justement du juif errant, et elle fait le rapprochement avec ce que n'a pas pu lui dire son père Jean, dont les parents ont été victimes de l'Holocauste. Qui lui-même a été résistant, a vécu la guerre et vit les lèvres murées finalement.
Le film d'Alessandrini donnait chair aux sentiments qui l'accompagnaient depuis si longtemps, et cela seul avait une importance. La solitude. Sa douce habitude est l'aigle noir, libre et donc solitaire, surgissant du passé, ivre de nuit, prêt à la ramener au pays d'autrefois, quand sa propre peau pouvait lui parler en secret et parfois même la bercer. Que la vérité historique fût bafouée, la belle affaire. Elle n'avait pas attendu ce film relique pour savoir. Ce savoir-là est de ceux qui ne s'apprennent pas, ils se sentent. Il se recueille par fragments dans le regard de Jean, au timbre de sa voix, à l'espacement de ses pas, aux mots qu'il garde en gorge, aux portes qu'il ne ferme pas.
Voilà, alors ça rejoint ce que vous expliquiez précédemment, à savoir que tous les peuples qui ont subi ce genre de traumatisme sont condamnés à vivre génération après génération avec ses souvenirs, mais en les formulant ou en les manifestant de diverses manières, parce qu'en parler est beaucoup trop difficile et en fait est une tâche impossible. Je trouvais que c'était extrêmement bien exprimé dans ce passage. Alors, je voulais en venir à la notion de mur, parce que tout le livre est construit sur cette notion. Il y a des murs, il y a évidemment le mur de Berlin que Eve aura besoin d'aller voir, et puis il y a des murs virtuels aussi. On va en parler. Pourriez-vous nous lire page 29, s'il vous plaît, un petit extrait qui annoncera la fin du livre. J'expliquerai ça ensuite.
Bien sûr, elle voit quelqu'un, mais elle a pris soin de le cacher à sa mère. Elle a même fait plusieurs tranches, comme on dit dans le métier, sans que le mur soit lézardé. Quand il le sera, il faudra l'abattre tout entier, enjamber les décombres, sans s'inquiéter des gravats ou des retombées, et de l'autre côté, s'il n'a pas bougé, tendre enfin les bras à André.
Alors, ça annonce finalement la chute du mur de Berlin. C'est un écho.
Oui, c'est ça, c'est un écho. On peut dire que Ève, elle est enfermée entre quatre murs. Il y a le mur de sa peau en feu, qui est un stigmate d'une assomption impossible. Le mur de Berlin, qui est le symbole du rideau de fer de son enfance et qui coupe l'Europe en deux. Le mur de Jérusalem, qui est le signe d'une identité complexe, compliquée aussi à assumer. Et le mur de Varsovie, qui est le sceau de l'histoire familiale. Et elle est entre ces quatre murs, elle est enfermée, elle est en prison dans ces quatre murs, et toute l'histoire du livre, c'est l'histoire des ressources qu'elle va pouvoir trouver en elle, parce qu'il n'y a qu'en elle qu'elle peut les trouver pour se libérer.
Et d'ailleurs, on est frappé par la solitude du personnage, une solitude en partie choisie.
En partie choisie, bien sûr, parce qu'il y a du monde autour d'elle. Elle a son père, elle a sa mère, elle a sa sœur, elle a André qui est toujours disponible, qui est toujours prêt à l'aider. Mais à un moment donné, je crois que la libération de l'individu, c'est quelque chose de solitaire, forcément solitaire.
Voilà, et elle choisit un parcours très difficile, très compliqué, mais qui va lui permettre de s'en sortir. Je voulais pas parler de la fin du livre. Alors, à propos des murs et des pierres, page 188. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander de lire des extraits, parce que je trouve ça très très beau, et surtout ça donne aux auditeurs vraiment une idée très précise de ce qu'est votre livre. Donc pouvez-vous nous lire cet extrait, s'il vous plaît?
Depuis, entre Jean et ses filles, Simone n'intervenant pas dans le débat, le fait de prier en plein air face aux vestiges d'une muraille dont la nature exacte, sinon l'authenticité, demeure contestée, a toujours été considéré avec un certain respect. Tant que les hommes, disait Jean quand elles étaient encore toutes deux à la maison, oui, tant que les hommes seront capables de penser un peu de travers, un peu suffit, et ensuite de remettre cette traverse même en question, tout espoir n'est pas perdu. Une pierre, ajoutait-il volontiers en se grattant les avant-bras, ne sait pas pleurer. Et pourtant, depuis si longtemps, c'est sur elle, et grâce à elle, que nous pleurons nos disparus. Ensuite, il fredonnait « Tum balalaïka », la berceuse juive russe où une jeune fille se moque d'un étudiant ayant voulu la piéger par ses questions. « Qu'est-ce qui peut pleurer sans larmes ?» Sot que tu es, un cœur peut pleurer sans larmes. Qu'est-ce qui peut pousser sans pluie? Nigaud de toi, les pierres du chemin. Si elle a choisi ce mur plutôt que l'autre, c'est sans doute parce que celui d'ici est encore debout. Un mur debout est toujours un défi. Quant à ce qui peut brûler sans jamais s'arrêter, la chanson propose l'amour, mais encore faut-il pouvoir se tenir la main.
Voilà, alors bon, ça résume les problèmes et les paradoxes auxquels Ève est confrontée et qui vont l'amener à hésiter justement entre la vie et la mort. Sa situation est si complexe et lui paraît parfois sans issue. Il faudra un événement très particulier pour l'aider et pour l'orienter vers la vie. Je vais vous demander une dernière lecture, après ça je vous laisserai tranquille. Donc c'est la page suivante, au sujet des étrangers.
Oui, c'est la situation dans laquelle on se retrouve quand on est à l'étranger. L'étranger, le pays étranger, donne souvent le sentiment de ne pas exister à part entière. Quand on n'est pas d'ici, on n'est pas tout à fait. Alors, on va sur les traces de ceux qui nous ont précédés, maisons, quartiers, ghettos ou lieux de culte, on cherche un passé. Les repères glanés au fil des rues prennent un sens détourné, c'est l'idée de Jean. Les pierres délaissées nous aident à penser, parfois même à pleurer. C'est ainsi que, petit à petit, au détour d'une fenêtre, au long d'une perspective ou entre deux allées, peu à peu, pas à pas, on appartient.
C'est admirablement juste et admirablement exprimé. Pouvez-vous nous parler un peu de la genèse de ce livre ? Comment l'idée vous en est venue ? Comment vous l'avez construit petit à petit ? Ou bien comment ça s'est imposé à vous ?
Il y a toujours, des motivations multiples dans ce qui fait qu'on choisit d'écrire ce livre plutôt qu'un autre. Une des choses dont j'avais envie de parler depuis longtemps, c'est justement cette transmission du traumatisme imaginaire, enfin de la mémoire des morts, par la peau. Moi, j'ai remarqué que beaucoup de familles, d'enfants de déportés, dont des gens très proches, avaient des problèmes de peau. Et en même temps, il y a ce dicton, on dit la famille c'est la peau, les amis c'est la chemise, c'est-à-dire que la famille, on peut pas, je veux dire, elle vous colle à la peau d'une certaine façon. Et donc cette manière dont l'histoire familiale s'inscrit sur notre peau, sur nos peaux, et quelque chose dont j'avais envie de rendre compte, parce que je crois que très peu de gens en ont parlé. Et puis, il y a toujours cette injonction pour moi de parler de personnages qui trouvent en eux la ressource, les ressources de se libérer eux-mêmes. Et puis j'avais envie de parler de ce mythe du juif errant qui m'intéresse et sur lequel peu d'écrivains ont pu parler, parce que c'est un mythe complexe, parce que c'est un mythe négatif, parce que ce personnage, finalement, enfin, je veux dire, on le connaît pas bien, ce juif errant. Hein. Je veux dire, c'est ce personnage qui arpente le monde, il est là comme ça, comme une sorte de témoin, il passe d'un pays à l'autre, mais est-ce qu'il est bienveillant, est-ce qu'il est malveillant, et j'avais envie de parler de ce mythe. Alors voilà, j'ai mis toutes ces choses ensemble, et puis aussi, alors peut-être même, en parlant, c'est peut-être le plus important, c'est ce silence, c'est, je veux dire, comment tout ce qui peut passer d'un être à l'autre à travers le silence, et c'est... Et finalement, entre Ève et sa famille, entre Ève et sa mère, entre Ève et son père, et entre Ève et ses projections imaginaires, il y a beaucoup de silence, mais ce silence est extraordinairement signifiant. Et je crois que si la littérature peut parler, c'est de ce genre de choses qu'elle doit parler. Je veux dire, on est dans un monde qui est beaucoup, beaucoup trop explicite, dans un monde qui donne une place extraordinaire au virtuel, à ses projections. Et mon personnage d'Ève, elle qui vit dans le virtuel, elle va faire le chemin inverse du chemin que nous faisons tous avec nos téléphones portables et toute la communication. Ève va aller du virtuel dans lequel elle vit et elle va ancrer ce virtuel dans le réel. C'était peut-être ça, au fond, qui m'a intéressé le plus.
Oui, alors ça donne aux auditeurs une idée de la richesse de ce livre qui est absolument remarquable. C'est un petit bijou. Et puis vous savez que je suis objective, non, je peux pas l'être, mais je suis réputée comme étant la méchante crocu, c'est-à-dire celle qui ose dire qu'elle n'aime pas un livre et qui dans ce cas-là n'hésite pas à argumenter. Donc là je suis forcément sincère en vous recommandant vraiment de lire ce livre. Et peut-être d'ailleurs aurez-vous envie, après l'avoir lu, de réécouter l'émission, de réécouter le podcast pour prolonger la lecture et pour approfondir un peu vos impressions, pour mieux comprendre. Mais enfin, comme vous le disiez, Gérald, chacun finalement comprend le livre à sa manière. Enfin, il y a autant de lectures possible que de lecteur.
Oui, c'est vrai que c'est aussi une des caractéristiques pour moi d'une littérature, enfin de ce que pourrait être la littérature d'aujourd'hui, c'est de donner plusieurs niveaux de lecture et de laisser une certaine liberté au lecteur. C'est vrai que je suis toujours gêné par les auteurs qui veulent absolument imposer une vision et tout verrouiller dans leur lecture. Je crois que il y a entre l'écrivain et le lecteur, il y a une sorte de connivence et une sorte de confiance, et il faut laisser au lecteur un espace de liberté pour interpréter le livre à sa manière. Et d'ailleurs, dans les différents niveaux de lecture, on peut très bien le lire à un certain niveau, puis ensuite le relire et y voir autre chose. Et c'est pour moi très, très important et très doux de faire confiance au lecteur.
Eh bien voilà, c'est sur ces paroles d'ouverture d'esprit, d'indépendance d'esprit que nous allons terminer. Une heure, ça s'écoule très vite.
Ça passe vite.
Ça s'écoule très vite. Donc je rappelle le grand événement qui commence demain, Place de la Carrière. C'est le livre sur la place où vous pourrez retrouver Gérald Tenenbaum qui nous a si bien parlé de son dernier roman, Peau vive. Je remercie Lucas Schindler mots, à la technique. J'adresse à nouveau un grand salut à Yves.
Moi aussi, un prompt rétablissement et on espère le revoir bientôt.
Oui. Nous l'encourageons tous, nous le soutenons tous et on l'embrasse à nouveau très fort. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Marque Page.
Thank you.